Bonjour, j'ai l'impression qu'on m'entend. On va commencer et les personnes qui arriveront plus tard prendront l'atelier en cours de route. Je me présente, Gérald Loy du groupe Legotech de l'Association des bibliothécaires de France. Je vais donc modérer cet atelier organisé par le groupe Legotech. Le thème de l'atelier, vous l'avez vu, hein, bibliothèque, citoyenneté et immigration. Sachant qu'ici, le terme de citoyenneté est entendu au sens de partage et de participation sur un territoire, et que par conséquent, elle peut être considérée séparément de la notion de nationalité. Pour débattre, apporter des témoignages sur ce thème, nous avons quatre intervenants. Donc Jacinta Maciel du Portugal, Dominique Deschamps de France, et Raphaël Batz et Thomas Chebeau de France également. Donc ça n'apporte pas beaucoup d'éléments, mais je venais de parler de territoire. Alors, Jacinta Maciel est présidente de la délégation Nord de l'Association portugaise de bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Elle travaille à l'Université du Minho à Praga, la deuxième ville du pays. Elle a déjà œuvré dans un centre de documentation sur l'enfance et elle est formatrice dans le domaine de la lecture. À propos de notre thème, ce qui pourrait nous intéresser notamment, c'est qu'au Portugal, une place particulière est donnée aux Brésiliens, vu l'affinité qu'il existe entre ces deux nations. À ma gauche également, Dominique Deschamps, directrice du réseau des médiathèques de pleine commune, un territoire se définissant avec 134 nationalités. Donc, peut-être nous dira-t-elle quel effet cette définition a dans son service, dans sa mission de bibliothécaire. À ma droite, donc, Raphaël Batz et Thomas Chebeau, qui sont tous deux à l'ENSIS, l'une aux relations internationales et l'autre responsable de la formation des bibliothécaires et membre de Legotech également. Eh bien, je vais donc donner la parole à Raphaël Batz et à Thomas Chebeau pour une présentation assez générale, sachant qu'il remplace un intervenant qui n'a finalement pas pu venir parmi nous.
Ça, c'est pour vous demander d'être conciliant avec nous. Donc Thomas et moi, nous allons vous proposer un peu une introduction à cette question qu'on s'est posée sur la bibliothèque citoyenneté et immigration. Je vais rester pour ma part sur un plan théorique, mais pas au niveau recherche, hein, c'est vraiment très général, du moins assez détaché de la question des bibliothécaires. Et Thomas reviendra sur des exemples plus professionnels pour alimenter un déjà début de conversation. Merci. Moi, je voulais qu'on revienne un peu brièvement sur des visions générales de ce que peut être l'immigration et des questionnements que pose l'immigration et traverser avec ça. D'abord, quand on parle d'immigration, de quoi parle-t-on ? Quand on parle de communauté, de quoi parle-t-on ? Et enfin, quand on parle de citoyenneté, de quoi parle-t-on ? Alors, Gérald l'a évoqué rapidement, on y reviendra. Et puis, je vais essayer d'aller très rapidement, mais si vous voulez, on continuera à en discuter plus tard. Notre première interrogation est portée d'abord, évidemment, sur c'est bien beau de faire quelque chose sur l'immigration, mais c'est quoi l'immigration et notamment, c'est quoi l'immigration en France? Parce qu'on verra peut-être avec Jacinta que l'immigration au Portugal a des formes différentes, etc. Et qu'est-ce que c'est l'immigration en France? Pour information, à l'heure actuelle, on compte en France 89,7% de Français de naissance, 4,4% de Français par acquisition. Les Français par acquisition, vous savez, ce sont ceux qui accèdent à la nationalité française par mariage, par acquisition anticipée pour les jeunes étrangers qui sont nés en France, ou par naturalisation. 5,9% d'étrangers. Les étrangers résident en France sans posséder la nationalité française. Attention, un étranger peut être né en France. Okay. Et ce n'est pas le cas des immigrés, on y reviendra tout à l'heure. Et il peut devenir français par acquisition. Et on compte aussi 8,5% d'immigrés. Alors, les immigrés, eux, étant nés à l'étranger et vivant en France, et un immigré sera toujours un immigré, même s'il devient français. D'accord ? C'est ça la définition INSEE de un étranger, un immigré, etc., etc. Alors en France, on compte au niveau de l'immigration, donc là des immigrés, 35% on va dire en gros qui viennent de l'Europe des 27. Okay. 4% et quelques qui viennent de l'Europe mais hors 27. 40% d'Afrique, 13% d'Asie et 6% d'Amérique et d'Océanie. Okay, pour vous donner un peu l'idée. Tout ça, ce sont des sources INSEE. Sachez que toutes ces sources, vous les trouvez sur leur site web dédié justement aux données et aux statistiques. Une particularité de la France, d'abord, sachez que c'est loin d'être le pays qui a le plus d'immigration en Europe. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous avez idée du pays qui a le plus d'immigration en Europe ? Allemagne, Suisse, Autriche, j'entends. Non, c'est l'Estonie et la Lettonie et la Lituanie. Oui, oui, je vous assure. Pourtant, c'est vrai. Beaucoup plus que l'Allemagne. Après, effectivement, c'est l'Allemagne, l'Autriche, etc. Et l'Espagne, etc. Et puis ensuite, la France. La France est loin d'être dans les pays les plus, où il y a le plus d'immigration. On compte en France une particularité qui, pour nous, n'est pas du tout étonnante, mais qui est en fait étonnante si on regarde chez les autres. C'est qu'on est un pays où il y a beaucoup d'immigrés, c'est une chose, soit, mais il y a aussi beaucoup de descendants d'immigrés. Voilà. D'abord parce qu'il y a eu des regroupements familiaux, puis aussi parce que les générations se continuent, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays où ça peut être de l'immigration qui vient et qui repart. Voilà. On compte aussi, donc, du coup, on a des statistiques en France sur les immigrés, mais aussi sur les descendants d'immigrés. Et ça, ça peut être intéressant pour nous en bibliothèque aussi, évidemment. Pour information, le niveau de vie médian d'un ménage immigré en France est de 30% inférieur à l'ensemble de la population, mais il est à 12% inférieur quand on est dans les descendants d'immigrés. D'accord ? Donc on a des distinctions, je veux dire l'immigration au sens large, okay, il faut bien considérer qu'il y a des distinctions si on parle d'immigration première ou évidemment de descendants d'immigrés. Au passage, pour toutes les informations sur l'immigration, il y a une élève en ce moment à l'ENSIP qui fait un mémoire sur l'immigration en Europe et les bibliothèques, et donc qui fait tout un travail statistique là-dessus que vous pourrez retrouver prochainement. Lisa Châtelier, elle s'appelle. Voilà, donc d'une manière générale, en France, on trouve à l'immigration plusieurs situations, des situations d'immigration liées à des raisons économiques, raisons de travail, même si les grandes vagues d'immigration appelées par la France pour faire venir des gens se sont arrêtées, on va dire. Il y a évidemment toujours des gens qui viennent en France pour des raisons économiques, mais qui ne sont pas nécessairement appelés par la France. Il y a beaucoup de situations familiales, des regroupements familiaux. Et puis, il y a aussi, dans l'immigration, ce qu'on a tendance à oublier parfois, c'est tout ce qui est réfugiés et demandeurs d'asile. Ça, c'est quand même un pôle important à côté duquel il ne faut pas passer. D'un point de vue institutionnel, l'immigration, c'est un petit peu complexe. Enfin, vous en doutez, mais c'est complexe aussi pour savoir qui accompagne qui. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner l'immigration ? On a parfois des accompagnements institutionnels, réellement institutionnels. Par exemple, l'ACCES, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, etc. etc. Mais on a aussi des environnements associatifs qui sont délégués, détachés, on va dire, par les institutions publiques pour faire office d'institution à la place de l'institution. Ça peut être le cas de la CIMADE, ça peut être le cas de l'OFI pour les parcours pour les primo-arrivants, des parcours citoyenneté pour les primo-arrivants, ou ça peut être le cas d'autres associations qui travaillent sur le forum réfugiés, par exemple, des choses comme ça. Et bien sûr, dernier point de l'immigration, ce sont des catégories sociales qui sont très variées. On en a parlé ce matin là, à propos de la crise et de quelqu'un qui disait dans mon pays, en Espagne, j'étais professeur de sciences, en France, je suis manœuvre en bâtiment, je ne sais plus ce qu'il disait. Donc voilà, il y a une multiplicité évidemment des cultures dans l'immigration et dans les étrangers qui sont en France, une multiplicité des niveaux d'éducation évidemment et des situations familiales aussi. Donc, une multiplicité, je veux dire, parler d'immigration, c'est quelque chose de tellement vaste finalement que on ne dit pas grand-chose quand on dit qu'on travaille sur l'immigration. Une difficulté qu'on a en France, c'est toute la notion dans l'immigration, je vous ai dit, donc on a 40% qui viennent d'Afrique, 35% qui viennent d'Europe, 13% qui viennent d'Asie, etc. etc. Et une chose à laquelle sur laquelle on s'interroge en France depuis très longtemps, mais peut-être encore plus aujourd'hui, c'est sur la notion de communauté. D'autant plus si on part du principe qu'il y a des descendants d'immigrés qui sont en nombre important en France, comme je disais tout à l'heure, et que donc on a aussi cette idée de transmission, et donc de transmission de culture, de valeurs, etc., qui peut créer communauté. Alors, en France, on est dans un modèle que vous savez être un modèle républicain, où la société française et cette notion de communauté s'est construite dans un rapport à l'État. En d'autres termes, ce qui fait communauté, c'est l'État. C'est ce qui nous relie. Ce sont les valeurs de la République. Et dès lors, on a une sorte de refus, si vous voulez, que ce qui puisse faire une autre communauté, on a un refus de ce qui pourrait faire une autre communauté. Donc que ce soit une communauté religieuse, une communauté identitaire, sexuelle, etc., etc. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui est absolument français. Je veux dire, on ne retrouve pas cette notion-là en Allemagne, parce que la question de la communauté est traitée de complètement différemment. La question même de communauté citoyenne est traitée de manière différente. Et on ne la retrouve pas, évidemment, dans les pays anglo-saxons. Vous savez que la notion de communauté, là, par contre, est très forte et très importante. Il est vrai que dans les pays anglo-saxons, va primer sur la construction de l'État par rapport à la France la notion de l'individu. C'est-à-dire qu'en gros, en France, on considère que l'État est premier par rapport à l'individu. Ça, c'est théorique, hein, on est bien d'accord. C'est théorique. Dans les pays anglo-saxons, on considère que c'est la somme des individus qui fait un État et qui va faire la force de l'État. Dès lors, l'individu, lui, il est porteur de ses valeurs et il peut considérer qu'il appartient à la fois à l'État et à la fois à telle ou telle communauté. En France, il y a donc une sorte de négation du discours sur la communauté. On a tous entendu parler de... toujours cette crainte. Le mot en français, on ne parle pas de communauté, on parle de communautarisme, beaucoup plus facilement. Voilà, donc on est dans un discours beaucoup plus négatif sur cette question-là, mais qui reste quand même intéressant, puisqu'on a dans cette idée-là la crainte en fait française qu'au fond, on irait avec la communauté sur un repli identitaire, ça c'est un aspect de la chose, ou alors une sorte de démagogisme cynique qui viserait à faire de l'individu le centre du tout plutôt que la nation, etc., etc. En gros, une sorte de marketing sur les communautés. Donc ce débat sur le multiculturalisme, en gros, il est très largement interrogé en France. Aujourd'hui, où, comme je vous disais, il y a beaucoup de descendants d'immigrés, et aussi au moment où on est la société française ou la société universitaire française est interrogée par des choses comme les cultural studies qui ont marqué les pays anglo-saxons depuis plus longtemps. Ça arrive aujourd'hui en France, enfin, ça fait 5-10 ans quoi. Donc aujourd'hui, on se pose la question en France de savoir si on ne pourrait pas être plutôt un lieu où on se rencontrerait une culture, on va dire, traditionnelle, si vous voulez, et puis des cultures immigrées, et que l'ensemble de tout ça, ça ferait la culture française. En gros, tout ça, ça explique un peu le glissement qu'on peut trouver des termes d'intégration, d'assimilation, et puis peut-être leur effacement au profit de termes tels qu'inclusion, qui sont très à la mode aujourd'hui et qu'on croise beaucoup. Et d'ailleurs, nous, on trouve ça bien, ce terme d'inclusion. Enfin, je veux dire, on l'utilise beaucoup, mais c'est vrai que ce qui est interrogé aussi, c'est le glissement dans le champ sémantique. L'inclusion, elle s'appuie sur l'idée qu'il n'y a pas de groupe dominant et que s'il y a un groupe qui est majoritaire en nombre, ça ne fait pas de l'autre groupe une minorité. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit tenant de l'intégration à la française, vous savez, c'était un des grands mots-clés du creuset républicain, ou qu'on soit plutôt tenant de l'inclusion, ce qui est important, c'est qu'au fond, il y a quelque chose de commun, c'est l'effacement de l'importance des cultures dans la création d'un lien commun, en fait, d'accord ? Dans l'inclusion, il y a l'idée que finalement, on n'a pas besoin de stigmatiser les cultures, toutes les cultures se valent, etc. Et c'est aussi un effacement des cultures d'une certaine manière. Dans l'intégration, il y avait l'effacement d'une culture dans les valeurs républicaines, ce qui était un autre type d'effacement. Bref, tout ça pour dire que en France, quand on veut parler d'immigration de citoyenneté, on est aussi confronté à cette question de la communauté et de comment on va l'interroger. Dernier point, c'est la citoyenneté. Et se pose pour nous la question de qu'est-ce que définir un citoyen. Alors Gérald l'a dit rapidement, nous on avait dans l'idée que la citoyenneté n'est pas nécessairement ce qu'on va appeler la citoyenneté de papier, c'est-à-dire celle du document qui indique d'où vous venez, où vous votez, etc. etc. Aparté, vous vous rappelez peut-être tous de la campagne de communication de Limoges sur « ici on ne vous demande pas vos papiers ». D'accord, donc on était vraiment dans l'idée que on n'est pas obligé d'avoir une citoyenneté qui s'arrête comme ça à une nationalité que l'on peut vérifier et qu'on peut noter de manière imprimée. En d'autres termes, la citoyenneté serait plutôt une citoyenneté qui doit s'exercer et qui va se rencontrer dans l'activité, dans une pratique, on va dire. Voilà. De la même manière, on parle de citoyenneté européenne. Aujourd'hui, si vous regardez les textes de l'Europe, si vous regardez par exemple tout le programme formation tout au long de la vie, Erasmus, etc., il y a un appel très fort à promouvoir la citoyenneté européenne. Une des façons d'obtenir des financements, c'est de dire qu'on fait des projets qui visent à mettre en œuvre la citoyenneté européenne. Ça relève à la fois donc, de l'idée qu'il y a une volonté commune de partager un territoire et de faire vivre ce territoire et d'y exister ensemble, quelle que soit la nationalité du coup. En d'autres termes, c'est l'idée aussi que la citoyenneté, elle ne relève pas de la nationalité, mais bien du territoire en priorité et de ce qu'on fait sur le territoire et de ce qu'on partage. La citoyenneté serait donc le partage de valeurs qui se font dans l'exercice commun qu'on a d'une vie, d'une cité finalement au sens grec, et d'un exercice général du vivre ensemble. Voilà. On parle aujourd'hui de citoyenneté profane aussi. Alors, la citoyenneté profane, c'est quoi ? C'est l'expérimentation de formes de citoyenneté qui ne sont pas données d'avance et qui vont modifier régulièrement en fait, les marges de la citoyenneté formelle. Donc ça va être par exemple la question de la citoyenneté des voyageurs, qui là, tout à l'heure je parlais de territoire, après tout on pourrait dire que c'est facile sur un territoire, on considérait que tous les gens du territoire, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, font citoyenneté. Quid des gens qui sont en déplacement tout le temps? Quid des gens qui sont nomades en France, etc. etc. Ben, dans tous les cas, ce qui est intéressant dans les citoyennetés dont on parle, et dans l'idée que la bibliothèque ou les institutions en général peuvent travailler à fabriquer une citoyenneté qui serait plus locale, voire temporaire, mais du moins locale en général, c'est l'idée que dans la citoyenneté, il y a des savoirs à mobiliser. Et que chaque individu est porteur de savoirs qui vont être des ressources, qui vont être une expérience, qui vont être une narration de sa propre vie, et que ce sont ces savoirs-là qui vont créer la citoyenneté, la rencontre de ces savoirs-là. Ça voudrait dire que la bibliothèque, en d'autres termes, ou les institutions, auraient pour vocation à être un espace participatif, un espace où les savoirs, aussi bien ceux des bibliothécaires que ceux de nos publics, en gros, vont être mobilisés pour une pratique commune. Ça voudrait dire qu'au fond, la bibliothèque n'est plus un lieu qui se donne à être utilisé par le public, mais c'est un lieu qui se construit avec le public complètement. Cette pensée-là, c'est complètement ce qui est à l'œuvre dans un certain nombre de nos établissements et de ce vers quoi poussent certaines municipalités quand on parle de démocratie participative. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est à interroger aujourd'hui. Est-ce que la démocratie participative permet d'interroger et de penser autrement la citoyenneté, notamment avec les publics immigrés, ou est-ce qu'il faut qu'on pense une participation qui ne serait pas nécessairement dans la démocratie participative ? Voilà.
Moi, je vais faire plus court finalement parce que tu as déjà pris pas mal de temps et c'est très intéressant. Mais je vais passer directement à la fin de mon discours qui était plutôt de vous proposer une sorte de panorama d'actions qu'on pouvait faire. L'idée, c'était de dire que le rôle social des bibliothèques aujourd'hui, il est communément admis, il est bien appuyé. Tout ça, ça se fonde sur un certain nombre de valeurs. Les bibliothèques sont des lieux ouverts à tous, sans discrimination, des valeurs autour de l'accès à la culture et à l'information, autour de la cohésion, de l'insertion dans la société également. Et au-delà de ce rôle social, en fait, de plus en plus, les bibliothèques vont se poser des questions autour des notions de multiculturalisme, Alors c'est quelque chose qui ne va pas forcément de soi. Alors s'il n'y a pas d'opposition franche sur ces notions de multiculturalisme et comment on les traite en bibliothèque, il y a quand même des tensions manifestes, notamment sur le rôle de la bibliothèque. Cette dernière doit-elle, par exemple, s'adresser à des communautés, comme tu le disais, en particulier, et donc à une certaine vision particulariste de la bibliothèque, ou au contraire, s'adresser de manière à tous de la même façon, une vision plus universaliste qui mettrait en valeur l'acquisition d'une culture commune qui serait la culture républicaine. Donc voilà, des tensions qui subsistent dans le monde professionnel aujourd'hui. Vincent Guesser, dans Le pluralisme culturel, l'impensée des bibliothèques publiques, un ouvrage paru en 2004, c'est un médiathème, donc auprès de l'ABS, disait « La prise en compte institutionnelle de la pluralité culturelle est inséparable de celle de la capacité du service public à répondre aux demandes des usagers et surtout des citoyens, quelles que soient leurs origines sociales, nationales, culturelles. » Donc voilà, le positionnement des bibliothèques et des bibliothécaires sur le sujet semble faire consensus. Ceci dit, ce n'est pas toujours simple. On l'a vu tout à l'heure, il y a des tensions. Et puis, il y a également le fait de faire attention aux stéréotypes. Il ne s'agit pas non plus d'enfermer des personnes, des individus, dans une projection foncée d'une culture qui ne serait pas la leur. Tout cela participe également d'un certain nombre. Il y a beaucoup de littérature professionnelle autour de ces questions. Il y a beaucoup de mémoires, de recherches sur ces questions également au sein de la littérature professionnelle. Et puis, il y a également des manifestes qui vont renforcer tout cela, des textes fondamentaux dans notre culture professionnelle, qu'il s'agisse de la charte du Conseil supérieur des bibliothèques en 91, qui insistait justement sur l'accueil de tous à la bibliothèque, ou de manifestes de l'IFLA UNESCO, sur la bibliothèque publique en 1994, toujours une fois sur le fait d'encourager un dialogue interculturel au sein des bibliothèques, favoriser la diversité culturelle en elle-même, ou également le manifeste IFLA UNESCO sur la bibliothèque multiculturelle qui reprenait tout cela et qui essayait de mettre tout cela de manière plus opératoire peut-être. Si je veux donc terminer ce panorama sur ce qui existe, ce qu'on peut faire en bibliothèque autour de cette notion de multiculturalisme, d'abord, ça va passer par tout simplement une inscription au cœur de la programmation culturelle. Donc là, ça va passer par le biais d'expositions, de sélections bibliographiques, de projections de films, d'ateliers, conférences, etc. Il ne s'agit pas non plus de cibler cette fois-ci des communautés spécifiques, mais vraiment plutôt de s'adresser à tout le monde et d'envisager ces actions culturelles vraiment à des communautés comme faisant partie du territoire desservi par la bibliothèque, l'ensemble des publics desservis par la bibliothèque. Il y a également des actions plus particulières d'accueil spécifique, d'accueil personnalisé. C'est le cas à la bibliothèque de Givors, par exemple, où ils accueillent des publics migrants. Des actions de lecture liées notamment à tout ce qui est alphabétisation. À Noisy-le-Sec également, ils font des contes pour adultes, des heures du conte pour adultes, donc comme ça faire découvrir différentes cultures. Alors celles qui marchent le mieux, ce sont les cultures des communautés qui sont majoritairement représentées au sein du territoire, mais la bibliothèque fait en sorte quand même de proposer des heures du conte qui soient dans d'autres cultures, de façon à toujours élargir. Une autre possibilité, c'est de mettre en œuvre des partenariats. On aura le temps de revenir dessus après dans les séquences de questions. Alors ça, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment réfléchir à ces partenariats également en termes de complémentarité avec ce qui existe déjà d'un point de vue associatif, comme l'a souligné tout à l'heure Raphaël, toujours d'un point de vue local. C'est ce que disait Nicolas Gallo, qui est le directeur de la bibliothèque municipale de Brest, où il disait qu'il y avait déjà un fort réseau, un fort maillage associatif sur le territoire et que du coup, il fallait qu'il y ait vraiment positionné la bibliothèque, ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle ne pouvait pas faire, qu'est-ce qui était redondant ou pas. En ces termes de partenariat, à Gennevilliers, par exemple, il propose des ateliers sociolinguistiques pour faciliter tout ce qui est démarche quotidienne des primo-arrivants, encore une fois. Ou à Montreuil, il y a des ateliers de conversation. À Noisy-le-Sec, ils proposent cette fois-ci des ateliers multimédia. Donc, ils ont un portail internet autour de tout ce qui est français langue étrangère. Et ces ateliers multimédia permettent, par le biais d'ateliers numériques, justement, qui sont plutôt réservés à des groupes d'apprentissage, donc qui suivent des cours organisés par la mairie, de se familiariser avec tout ce qui est le français langue étrangère. Et puis, dernier point important aussi, c'est tout ce qui est simplement avoir des collections adaptées à ce genre de public. Donc, il s'agit soit de s'adresser à une population qui ne maîtrise pas forcément bien le français, ou encore de proposer un autre moyen d'accès à différentes cultures. Il peut s'agir donc de proposer des collections en langues étrangères, en langues d'immigration. C'est le cas à La Courneuve, par exemple, c'est le cas à Montreuil également. Et après, derrière, ça pose un certain nombre de questions en termes de compétences professionnelles, en termes de taille du fonds. Est-ce que c'est intéressant, finalement, de proposer un fonds avec seulement quelques dizaines de documents, ou est-ce qu'il faut vraiment aller plus loin ? En termes de contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut proposer comme type de contenu ? Pas uniquement des fictions, mais également une variété de documents, des documentaires sur la France, par exemple, les traductions de classiques également pour faire connaître la culture française, la littérature française, multimédia. Et puis également, dans ces bibliothèques, comme à Montreuil, il y a une réflexion autour du fonds jeunesse. Qu'est-ce qu'on va proposer en fonds jeunesse pour ces publics migrants ? Dans les bibliothèques du réseau parisien, il y a également une répartition, sur la, puisque c'est un réseau important, une répartition des fonds spécifiques sur l'ensemble des bibliothèques du réseau. Donc voilà, c'est une autre piste. Ou encore une dernière piste, des collections justement plus spécifiquement autour de l'apprentissage du français. C'est le cas à Bobigny également. Et ça ne sert à rien d'avoir autant d'outils si les publics ne sont pas au courant de tout cela. Donc il faut également faire un fort effort autour de tout ce qui est communication. Et ne serait-ce que proposer tout simplement un guide multilingue, un guide du lecteur multilingue. C'est le cas à Toulouse, par exemple, qui propose un guide en 7 langues, français, anglais, arabe, catalan, chinois, espagnol et russe, qui présente la médiathèque, ses services, ses collections, ainsi que tout ce qui est conditions d'inscription, d'emprunt. À Bobigny, ils ont également un guide comme cela, avec 6 langues, l'anglais, l'arabe, le chinois, le tamoul, le turc ou le français. Et guide papier également, et enfin des pages également sur les sites internet qui sont traduites en langues étrangères. C'est le cas notamment à Grenoble, où il y a une présentation du réseau en 6 langues, qui sont l'anglais, l'allemand, l'arabe, l'espagnol, l'italien et le portugais. Et on retrouve comme ça une présentation du réseau, une présentation de la bibliothèque municipale, des conditions d'inscription, des tarifs, et puis tout ce qui est conditions de prêt, tout simplement. Donc je fais court, j'essaye de balayer, on reviendra dessus autour des différentes questions, mais l'idée c'est vraiment de permettre l'accès de tous à la culture et au savoir. C'est un enjeu d'émancipation des citoyens, tant en ce qui concerne l'acquisition d'un esprit critique qu'en termes de développement personnel.
Merci à Raphaël et à Thomas pour ces définitions et ces exemples. Je vais donc maintenant passer la parole à Jacinta Maciel.
Alors, bonjour. Je suis très heureuse d'être à Lyon, ma commune natale. Je le réfère pour l'accent, peut-être. Ça vous situera peut-être un petit peu mieux. C'est un honneur de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je remercie bien sûr au groupe Légothèque de m'avoir invité, ainsi qu'à l'ABF. Je salue, parce que voilà, c'est la norme dans mon pays de faire des congrès un petit peu plus un peu différents, je veux dire, dans le sens, on en parlait avec Bruno qui est intervenu ce matin, où on est un petit peu plus formel, enfin juste voilà, en passant, vous saluez tous. Et surtout, voilà, ça me tient à cœur cette problématique, parce que j'ai vécu ici 19 ans et j'ai été moi-même donc fille d'immigrés ici, et j'ai connu donc les bibliothèques dès mon plus jeune âge, avec ma sœur qui était plus vieille que moi, 8 ans, et qui me prenait par la main, m'emmenait à la bibliothèque municipale de Décines, et voilà, et j'ai connu ce monde merveilleux des livres, où il y avait la télévision en noir et blanc est rentrée, enfin je suis née en 73, hein, je suis pas très vieille, mais la télé en noir et blanc est rentrée chez moi, j'avais 8 ans, donc voilà, avoir connu les bibliothèques avant, ça a été vraiment une révélation, un plaisir, voilà, un émerveillement. Alors ma contribution à cette table ronde se place au niveau des bibliothèques portugaises. Je vais tâcher de vous présenter la situation au Portugal, et notamment au niveau des bibliothèques publiques. Donc après, si vous avez des questions, je prévois de prolonger cette étude au niveau des bibliothèques scolaires, parce que là, il y aura beaucoup plus, disons, de réponses beaucoup plus pertinentes. Enfin, vous le verrez par la suite. Et en ce qui concerne les bibliothèques universitaires. Il y a également d'autres données, puisque le public est également beaucoup plus ciblé. Les données statistiques dont je vais brièvement parler proviennent donc des sites officiels, notamment regroupés par PORDATA, c'est une base de données du Portugal contemporain. Si après vous avez besoin de contact, d'adresse, je pourrais vous les donner, bien sûr. Alors, la population résidant au Portugal est estimée à plus de 10 500 000 personnes, habitants. C'est des données de 2010. Là, c'est une projection pour 2012, donc le chiffre que vous voyez sur la droite. Les étrangers... ici c'est la définition, à peu près celle qui vient de l'Institut national de statistiques. Toute personne étrangère qui, au cours de la période de référence, est entrée au pays avec l'intention d'y rester, ayant vécu à l'étranger pour une durée en continu égale ou supérieure à un an. Les étrangers qui ont un statut légal de résident, ce sont les données officielles. En termes d'autres données, elles sont pas répertoriées en tant que telles. Bien sûr, il y a toujours des projections, mais en tout cas, le statut légal de résidence des étrangers / immigrés, je ne rentre pas dans les spécificités terminologiques qu'a présenté Raphaël. Par contre, je vous présente les données qui existent en ce moment, donc en 2010. Ce sont les données les plus concrètes. Par ailleurs, je trouve qu'il est intéressant de voir qu'en 1980, il n'était que 0,5%. Donc c'est assez important l'augmentation des immigrés au Portugal. En 1960, de 20 000. Donc on est passé à 443 000. C'est assez important. Donc la communauté étrangère la plus importante au Portugal est la communauté brésilienne. On a 119 000 Brésiliens qui vivent légalement sur le territoire. La seconde communauté, ce sont les Ukrainiens, avec 49 000 habitants. Voilà. Vous parler aussi de quelqu'un qui me tient très à cœur. C'est un bibliothécaire portugais, Henrique Barreto Nunes, vous avez son nom, qui, dans un ouvrage fantastique, un ouvrage qui fonctionne un peu comme... on aime travailler dans les bibliothèques, il faut lire cet ouvrage. Il a, dans le premier texte du livre, choisi un titre très significatif, « Un pays à la recherche d'électeurs ». C'est un bibliothécaire de lecture publique qui, pendant des années, a travaillé avec passion et avec tout ce qu'il faut, surtout cet ingrédient, je crois, pour travailler dans une bibliothèque et auprès des publics. La première bibliothèque portugaise publique a été créée en 1796, et jusqu'au début des années 80, on observe une absence totale de planification. Sur le bas, un pays à la recherche de lecteurs. Bon, on se situait dans cette démarche. On avait des bibliothèques qui manquaient cruellement de ressources humaines et financières pour correspondre aux objectifs tracés. Donc on était plutôt dans un esprit de conservation et beaucoup moins le lecteur était vraiment... ça paraît un peu aberrant. Moi-même, qui n'ai pas vécu ça toute petite, donc je suis arrivée dans les bibliothèques portugaises et c'était vraiment beaucoup qui fonctionnaient avec des armoires fermées à clé, les livres dedans, et c'était assez préhistorique. En 1987, sous la tutelle de la culture, est créé le réseau national de la lecture publique. Ça, je vous ai apporté, à titre d'exemple, c'est une collègue qui a présenté ça à Rome la semaine dernière. Et j'ai repris cette image. Ça reprend aussi la notion d'inclusion. On dirait que je saute du coq à l'âne. Je saute du coq à l'âne, mais c'est aussi une manière de montrer ici une photo d'un collègue, Nuno Marçal, qui travaille aussi dans les bibliothèques, surtout les bibliothèques itinérantes du pays. Je vous disais qu'en 1987 est créé le Réseau national de la lecture publique. Et le programme repose sur un partage de responsabilités entre l'État et les mairies. Les bibliothèques se répartissent selon trois types et selon le nombre d'habitants de chaque commune. Donc nous avons les BM1, je vous en parle juste brièvement parce que je vais référer quelques exemples qui ont un rapport avec cette typologie. Donc les BM1, ce sont des bibliothèques qui sont dans une commune avec moins de 20 000 habitants, les BM2 entre 20 000 et 50 000 et les BM3 plus de 50 000 habitants. À l'heure actuelle, on compte 195 bibliothèques qui appartiennent au réseau national des bibliothèques publiques et les bibliothèques publiques municipales qui incluent celles qui appartiennent au réseau ou non, ils sont de l'ordre de 301 bibliothèques. Dans le cadre du thème de cet atelier, une enquête a été menée auprès des bibliothèques publiques municipales, donc celles qui incluent également le réseau. Et cette enquête comprenait un questionnaire de 14 questions. Il a été rempli à moins d'un tiers par les bibliothécaires, auxquels a été dit, voilà, on a situé le contexte, qu'est-ce qu'on entend par cette problématique, voilà, qu'est-ce qu'on veut savoir. Une des premières questions a été est-ce que dans votre bibliothèque il y a des lecteurs qui sont d'origine ou de nationalité étrangère? Alors oui, à 93% des bibliothèques ont répondu oui. Ensuite, à la question combien de lecteurs immigrés sont inscrits à la bibliothèque, là par contre, les bibliothécaires ont eu beaucoup plus de peine à répondre. Plus de la moitié des répondants affirment qu'ils ne savent pas, je ne sais pas, le nombre n'est pas disponible, non identifié, non comptabilisé, je ne sais pas, mais autour de 50, voilà, donc une projection. Une estimation, je veux dire. Il y a ensuite 4 bibliothèques qui répondent moins de 20, 6 bibliothèques de 20 à 50, 5 bibliothèques plus de 50 à 100, et on a ensuite les plus grandes typologies de bibliothèques, comme les BM3, qui ont 875, par exemple, lecteurs immigrés, mais ce sont des cas rares dans les réponses fournies. À la question, si vous avez donc des lecteurs immigrés dans votre bibliothèque, de quelle façon analysez-vous le profil des lecteurs? Donc, de quelle façon est-ce que vous avez pris connaissance de ces... Donc, c'est un peu bilingue, là, ma présentation, mais je l'explique, donc voilà, je pense que vous comprenez. Ce sont surtout, donc, de quelle manière est-ce que vous savez que vous avez connaissance donc, des lecteurs immigrés dans votre bibliothèque? Ce sont des données recueillies au moment de l'inscription, donc le second paramètre à 81%. La nationalité, donc c'est une donnée qui est enregistrée au moment de l'inscription du lecteur. D'autres recours à 13% aux données statistiques plus officielles, beaucoup plus macro. En ce qui concerne la création, l'adaptation de services pour les lecteurs immigrés, alors là, il y a deux pôles de réponse. D'un côté, les langues étrangères, voilà, c'est vraiment... les réponses sont très axées là-dessus. Et ensuite, la formation de lecteurs, mais en partie. Il y a un signalement au niveau des catalogues pour la récupération des documents en langues étrangères, que ça soit possible de faire la recherche à partir de là. Dans la section jeunesse, par contre, parce que les jeunes ont plus de difficultés, ça a été signalé, à la recherche sur les bases de données, il y a une séparation physique des documents afin de faciliter cet accès donc, aux documents physiquement regroupés. Il y a des signalements aussi de documents en langue anglaise et hollandaise offerts par les communautés résidentes. Donc ça a été plusieurs fois indiqué, donc les fonds en langues étrangères proviennent souvent d'offres, donc de dons faits à la bibliothèque par les communautés qui parlent cette langue. Bon, là je parle des bibliothèques publiques, mais une bibliothèque universitaire que je connais, ils avaient un fonds chinois et les ouvrages étaient sans dessus dessous puisque les bibliothécaires ne savaient pas reconnaître, n'avaient pas la compétence linguistique pour reconnaître comment est-ce que les livres vont être mis sur l'étagère. Voilà, bon, c'est à titre d'exemple, anecdotique. L'acquisition aussi de journaux étrangers, ça a été beaucoup, beaucoup référé. Les périodiques, donc beaucoup aussi pour les saisonniers, les étrangers qui viennent travailler de façon occasionnelle donc, au Portugal. Ça arrive dans une bibliothèque qui travaille... à côté d'une raffinerie et aussi d'une centrale électrique. Donc, plusieurs fois, enfin, il y a une vague donc dans l'année où la population augmente pas mal, et de 12 000 à 15 000, je crois. Enfin, j'ai les données quelque part. Je vous le redirai si ça vous intéresse. Et en fait, on concentre les activités, on concentre les services pour ces cas-là. Quand on leur propose des périodiques, on leur propose également le contact pour les familles. Voilà. Alors, moi, je me pose des questions quand j'ai lu ces réponses. Quel est, au fond, le rapport à la lecture ? Parce qu'en fait, la bibliothèque, elle existe, elles sont municipales, elles appartiennent à la communauté. La notion de communauté, elle a été citée par Raphaël. Et dans le sens où on entend par communauté les gens qui habitent ou alors qui travaillent dans sur le territoire ou alentour de la bibliothèque qui les dessert ou qui les dessert le plus proche en termes physiques. Hein. Donc cette communauté que les bibliothécaires entendent devoir servir. Alors, est-ce que ça nous donne la place à tout créer et tout faire dans la bibliothèque ? Alors, peut-être que ces services existent dans la bibliothèque parce qu'ils n'existent nulle part ailleurs. Voilà. Bon, c'est aussi une autre question. Aussi, en termes de services, il a été dit qu'il y a l'acquisition de documents pour le soutien à la consolidation de la langue portugaise. Ça a été assez cité. La présentation publique de livres en anglais pour une des bibliothèques, quant à la formation de lecteurs, donc le second paramètre, hein, second indicateur, l'indique l'existence d'un espace interculturel composé d'un fonds documentaire diversifié en langue étrangère. Alors, est-ce qu'il existe des collections en langue étrangère spécialement créées pour les lecteurs étrangers ? Alors oui, en ce qui concerne les monographies. Ensuite, tout de suite après, 15% viennent les périodiques. Et ensuite, par contre, 9% déclarent qu'ils n'ont aucun document ou recours en langue étrangère. C'est l'avant-dernier paramètre. Et d'autres, 5% déclarent qu'ils ont des ressources sur le web, donc disponibles en ligne sur les différents sites. Voilà, merci. Les pages web, blogs, etc., qui puissent exister. Est-ce que vous réalisez dans la bibliothèque des activités spécifiquement destinées aux communautés immigrantes ou d'origine étrangère ? Alors, pour 5 bibliothèques seulement, voilà, donc c'est assez. C'est très peu. Hein. Spécialement destinées aux immigrés, ben non. Ben rien de très spécial. Voilà, ça a été assez curieux quand même de remarquer ça. Par contre, quand j'ai demandé quant aux activités destinées aux lecteurs immigrés, indiquer quels en sont les objectifs, donc les seules bibliothèques où ça existe, quelles sont les réponses qui ont été données ? Ça a été référé à la convivialité, l'aspect vraiment du partage entre les communautés et la communauté immigrée et la communauté locale. C'est une bibliothèque qui recense 23 immigrés sur un total de 1583 lecteurs inscrits. Donc. Le projet nommé Bibliothèque multiculturelle avec le soutien de la Fondation Kalouste Gulbenkian qui cible la communauté russe, qui passe par l'acquisition de documents, des activités et les indications à l'extérieur en plusieurs langues. À terme, il est prévu d'étendre le projet aussi à d'autres langues. Alors, c'est donc intéressant. Par contre, c'est une bibliothèque qui ne sait pas combien d'immigrés elle a, donc ça ne doit pas être une donnée qui a été enregistrée, mais elle a un total de 6186 lecteurs. Une autre réfère les cours de portugais pour les étrangers qui viennent habiter sur le territoire, 50 immigrés pour un total de 2205 lecteurs, et une autre réfère qu'ils font un soutien au niveau des services de référence. Alors, juste avant ça, juste vous parler, est-ce qu'il existe la formation pour l'utilisateur immigré ? En termes de formation dans la bibliothèque, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, il y a des cours de portugais pour étrangers. Normalement, l'équipe de fonctionnaires fournissent le soutien nécessaire à ce type de lecteur. Bon, c'est ça, c'est assez fréquent en Portugal. Le bibliothécaire qui fait tout et qui travaille par passion, c'est discutable, bien sûr, mais on travaille avec les moyens du bord. Et on le fait normalement, voilà, quand on est multi, on est polyvalent et multitasking, etc.
Oui, excusez-moi, Madame oui Massiel, c'est moi.
Oui.
Juste pour vous dire qu'on ait le temps après de la dernière intervention et de l'échange de.
Dites-moi.
D'avoir encore 5 minutes.
J'ai 5 minutes.
Oui.
Oui, ça sera très bien, parfait.
Merci beaucoup.
C'est ce que j'avais prévu. Alors, dans le cas, lorsqu'il existe des contenus et des formes de communication bilingue ou multilingue, pouvez-vous signaler lesquels? Donc, le taux le plus fort, c'est le personnel de la bibliothèque, comme étant vraiment l'équipe qui réunit des compétences linguistiques, donc la troisième ligne, en termes d'expression orale ou écrite, et qui peuvent échanger donc, avec les communautés étrangères. À 8%, il y a une coopération avec les autres organisations, comme les associations de soutien aux communautés étrangères. Alors, ça, c'est pour vous dire merci. Juste en vous signalant, parce que ça a été référé, et juste avant ça, donc la communauté brésilienne, c'était une question qui était posée sur la table. J'ai encore 4 minutes, il me semble. Voilà, merci. Et donc, la question pour la communauté brésilienne, ça a été de demander quelles sont les activités et les services spécialement destinés à cette communauté. Il y a des lecteurs brésiliens, mais pas d'activités spécifiques pour eux. 20 immigrés, c'est une BM2 qui réfère qu'ils ont 20 immigrés, sur un total de 9014 lecteurs inscrits. Ensuite, il y a un bureau d'aide à l'immigré dans un local de la mairie. Une autre bibliothèque déclare que nous réalisons des activités de promotion des arts et de la littérature des pays de langue officielle portugaise. Les activités, et alors une autre tendance, c'est celle-ci. Les services et les activités offerts sont destinés à toute la communauté. Donc, les Brésiliens, de par l'identification, la langue qui est commune, le portugais, on a beaucoup, le Portugal reçoit la culture brésilienne de façon assez importante, dans les contextes domestiques, même où on ne lit pas, mais on entend la sonorité spécifique de la langue portugaise, qui a un accent qui est... On reconnaît un ressortissant brésilien parce qu'il a un accent quand il le parle qui est différent de l'accent quand on parle le portugais. Donc, mais c'est une langue que le portugais, on comprend bien mieux, nous les portugais, que les brésiliens comprennent. Donc c'est assez facile pour nous de à l'accueil en médiation avec les Brésiliens pouvoir faire ça. J'ai échangé avec une collègue et ça m'était dit de vive voix dans une bibliothèque universitaire. Donc il y a en termes de bibliothèque municipale, les activités, tout ce qui est offert à la communauté brésilienne sont intégrées. Enfin voilà, les activités qui sont destinées à toute la communauté ils font également partie de cette communauté par la même langue que l'on parle, que l'on partage. Ce qu'il y a, bien sûr, et quand on fait des cycles littéraires, des expositions, etc., il y a des auteurs brésiliens qui sortent, qui sont que l'on dynamise de façon diverse, et tout comme d'autres auteurs d'autres langues. C'est bon ? Vous me coupez le son ? Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre intervention. Et Dominique Deschamps va faire la sienne maintenant.
Bonjour. Donc, je vais, avant de vous présenter très rapidement et d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter très rapidement la communauté d'agglomération, parce que, et notamment parce que Raphaël Batz a donné des chiffres généraux sur l'immigration en France et les étrangers, et ça me semble intéressant que vous puissiez mesurer les écarts. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de dire que nous sommes, pardon, c'est justement ça que je ne voulais pas faire, mon Dieu. Ce que je voulais c'est horrible. Ouais, ouais. c'est vous dire que nous sommes des bibliothèques qui relèvent d'une communauté d'agglomération, donc une communauté d'agglomération qui a récupéré les bibliothèques municipales des 9 villes, Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Lille-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen depuis seulement cette année, Stain et Villetaneuse en 2005, communauté d'agglomération qui se situe donc en Seine-Saint-Denis. Et que, évidemment, vous avez tous entendu parler, je pense, de la Seine-Saint-Denis. Donc, la situation que je vais vous décrire s'inscrit dans ce contexte très particulier. Vous voyez que notre mot d'ordre, si je puis dire, pour ce qui est de notre réseau, c'est gratuite et solidaire. Donc, quelques éléments généraux sur la population de pleine commune. Ce qu'il faut, je pense, retenir par rapport à ça, c'est que chez nous, c'est un peu pire qu'ailleurs. C'est-à-dire que si vous prenez le taux de diplôme, le niveau de diplôme, les revenus, le taux d'imposition, vous voyez la colonne orange qui est celle de pleine commune, celle de jaune qui est la Seine-Saint-Denis et puis l'Île-de-France. Vous voyez que, y compris à l'intérieur de la Seine-Saint-Denis, on n'est plutôt pas très bien placé. Ça signifie que construire une politique de lecture publique dans ce contexte obligatoirement des conséquences, enfin implique des choix particuliers. C'est donc une population de plus de 500 000 habitants, de moins de 500 000 habitants et de plus de 400 000 qui est fortement touchée par les difficultés économiques. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et le niveau de diplôme, j'attire votre attention, 53% des habitants qui sont sans diplôme, des habitants toutes nationalités confondues. C'est une population qui aussi, évidemment, l'un découlant relativement de l'autre, est en difficulté par rapport au travail. Vous voyez que le taux de chômage des jeunes et des femmes est plus important sur notre territoire, évidemment, qu'en Seine-Saint-Denis et que dans toute l'Île-de-France, et que le taux d'activité des femmes est inversement proportionnel. Si j'en viens maintenant plus particulièrement aux populations étrangères à pleine commune, vous vous souvenez peut-être que Raphaël Batz a dit tout à l'heure que les Français par acquisition en France étaient 4 et quelques pourcents, chez nous c'est 14%. Les Français de naissance ne sont que de 57%, ce qui fait un total d'étrangers de 29%. Ces chiffres datant de 2006, nous sommes légèrement au-dessus maintenant. Les populations, donc près d'un tiers de la population est d'origine étrangère, ce qui fait pour 2010 130 000 personnes qui sont de nationalité étrangère. Près de 19% de ces étrangers qui vivent à pleine commune sont nés en France. Et pour les enfants, 9 sur 10 sont nés en France. Ça, c'est une chose qu'il faut quand même aussi prendre en considération. On l'a dit tout à l'heure, 134 nationalités sont présentes sur le territoire. Parmi ces nationalités, les populations africaines et maghrébines sont les plus importantes. Elles représentent 60% de la population. La communauté asiatique représente 18% des étrangers, essentiellement des Chinois, puis des Sri Lankais, des Tamouls et des Turcs. Et 90% de cette population étrangère, asiatique, est regroupée sur La Courneuve et Aubervilliers. Si on résume, un tiers des habitants ont une nationalité étrangère, 14% des Français sont par acquisition, 19% des étrangers sont nés en France, et 10% ne vivaient pas en France il y a 5 ans. Vous avez le tableau général, comme c'est écrit trop gros, vous ne voyez pas. Les premiers autres, ce sont les autres, ce sont les autres Européens de la communauté, puis les Européens non communautaires. Et les derniers autres, tout en haut, ce sont les autres Africains. Donc vous voyez, et les autres, tout en haut, c'est ben, tout ce qui n'est pas en dessous. Donc vous voyez, là aussi, si vous prenez les comparaisons, qu'on est extrêmement peu, on est extrêmement différent de l'Île-de-France. Où effectivement, par exemple, la présence des Européens est beaucoup moins forte chez nous, avec une prépondérance des populations, comme je l'ai dit tout à l'heure, algériennes, maghrébines en général, mais surtout algériennes et africaines. Un autre, peut-être une donnée qui est à prendre en compte, c'est que dans 5 des 9 villes du territoire, plus de 70% des enfants ont au moins un parent immigré. Dans le sens qui a été défini tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être français maintenant, mais néanmoins, ils sont immigrés. Enfin, et si j'en conclue cette présentation rapide de la population immigrée et ou étrangère sur le territoire, un petit focus sur sa composition socio-professionnelle. Vous pouvez voir sur le territoire que si on est immigré ou étranger, on est 2 fois plus ouvrier que si on est français, et on est 2 fois moins profession intermédiaire ou supérieure, ce qui est assez intéressant. Et puis on est aussi un peu plus sans travail. C'est intéressant de voir, c'est en revanche la petite part des artisans qui là est supérieure, et on voit bien à quoi tout ça fait référence. Voilà. Alors, avant d'en venir à tout ce que... Tout ce que je veux vous dire à propos de ce que nous avons mis en place, je voudrais revenir sur 2-3 éléments de la réflexion et peut-être de la stratégie. Tout à l'heure, on a parlé de partenariat. Est-ce que je, par rapport à cette question, nous, il nous a semblé que La question de servir ces populations immigrées, puisque nous sommes un service public, dans un territoire dont il se confirme qu'on est un territoire qui se spécialise dans l'accueil des familles populaires, essentiellement issues de l'immigration, c'est un enjeu évidemment extrêmement fort dans lequel un service public comme le nôtre doit jouer son rôle. Et du coup, la question des partenariats ne se pose pas pour nous comme une question à trancher en termes de complémentarité, mais plutôt comme une question stratégique. C'est-à-dire qu'il nous semble que, à ce niveau d'enjeu, il est indispensable de travailler avec d'autres, parce que se contenter d'une politique d'offre de services que nous avons et que je vous décrirai brièvement, nous sommes relativement voués à l'échec. Il nous faut, et d'ailleurs ça avait été quelque chose qui avait été bien expliqué par une collègue d'Hérouville-Saint-Clair il y a 2 ou 3 congrès de ça, à propos tout simplement de ce qu'elle appelait des populations éloignées du livre, et donc quelle que soit leur nationalité finalement, y aller seul, c'est relativement voué à l'échec. Il faut trouver des relais qui soient des entremetteurs de confiance, qui permettent à ces populations de considérer que ce qu'on a à leur offrir, ils peuvent s'en emparer. Il est certain que l'image de certaines bibliothèques, qui est une image qui est ressentie pas seulement par les populations étrangères, mais vraisemblablement aussi par tout ce qui est des populations qui ne sont pas familières des institutions culturelles, peut donner l'impression qu'il n'y a finalement pas lieu de venir chez nous, parce qu'on n'a pas le background nécessaire pour s'emparer de ce qu'on pourrait y faire, et du coup, on n'en voit pas l'intérêt, et même on ne pense pas qu'on puisse y prendre du plaisir, les deux à la fois. De ce fait, je voudrais aussi dire que la question de l'intégration, de l'inclusion, etc., Quand on est sur un territoire où 70% des enfants ou un parent immigré, ça se pose de toute façon même plus en ces termes, puisque en réalité, c'est plutôt nous qui devons nous intégrer d'un certain point de vue, et que y a la question de la culture dominante ne se pose pas non plus. La question du partage, je reprendrai volontiers à mon compte la définition de la citoyenneté que vous avez donnée tout à l'heure, essayer de mobiliser des valeurs communes. Et nous pensons que les bibliothèques peuvent être un bon lieu pour construire ces valeurs communes, à condition évidemment qu'on le veuille. De ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas faire d'angélisme non plus. Décider d'ouvrir des services et dans nos bibliothèques pour accueillir des populations en plus qui... je crois que c'est le collègue du Queens qui le dit très bien dans le livre hebdo, un livre hebdo qui est consacré à ce thème, qui pour la plupart n'ont absolument pas de tradition de lecture publique dans leur pays d'origine. Je pense que ça ne va pas tant que ça de soi, au-delà des déclarations d'intention, ne serait-ce que dans les personnels, parce que ça oblige à se re-questionner au fond sur nos pratiques professionnelles, sur la représentation que nous donnons de nous-mêmes et sur le positionnement professionnel que nous avons vis-à-vis des populations. De ce point de vue d'ailleurs, la question de la diversité, je pense qu'on pourrait aussi se la renvoyer et se dire quelle image de la bibliothèque a quelqu'un qui vient du Sri Lanka et qui rentre dans nos bibliothèques. Ils voient des petites dames blanches en général. Et je pense que la question d'ouvrir nos métiers à des citoyens qui, de toute façon, sont venus ou leurs parents et puis ne repartiront jamais. Ils seront français, tout comme moi, tout comme vous, un jour ou l'autre, et leurs parents aussi, peut-être. Je pense que voilà, la question d'ouvrir, et pas seulement sur des postes de vigile ou de grands frères, nos professions à ces couches de la population qui, pour certains, ont fait des études, etc., et les accompagner dans leur parcours professionnel, avoir une volonté de recrutement sur des profils plus atypiques. Ça signifie bien sûr mettre beaucoup de formations en place, ça signifie de l'accompagnement, ça signifie beaucoup de choses, mais au moins ça donne l'idée, ça donne une image plus ouverte, c'est moralement relativement plus satisfaisant et je pense professionnellement relativement beaucoup plus efficace. Voilà. Ça me semblait important de le dire parce que la diversité, on parle souvent de la diversité comme d'une chose qu'on applique aux autres, mais on peut aussi se l'appliquer à nous-mêmes. Donc très rapidement, j'en viendrai, je ne sais pas, je ne vois pas les panneaux d'ici, mais très rapidement, j'en viendrai au service parce que bon, on n'a rien inventé qui ne se fasse déjà ailleurs et que vous ayez... tout à fait bien décrit. Avant d'en venir au service, je voudrais juste raconter une anecdote. Quand j'étais bibliothécaire à La Courneuve, ça fait assez longtemps, nous avions beaucoup d'enfants zaïrois et qui dont les familles squattaient la tour qui a été une des tours qui a été démolie depuis. Et ces enfants zaïrois venaient absolument tout seuls à la bibliothèque avec parfois un grand frère, une grande sœur. Mais enfin, jamais on a vu ni un père ni une mère. Et beaucoup de collègues s'en irritaient parce que c'était difficile à gérer, tout simplement. Et c'est vrai que c'était difficile à gérer. Et dans le cadre des études urbaines, j'ai été amenée à rencontrer Toby Nathan, qui, vous le savez, était ethnopsychiatre, pardon, et qui officiait à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et Toby Nathan nous a expliqué que c'était une grande marque de confiance que nous faisaient les mères, puisque dans la tradition africaine, à partir du moment où l'enfant est dans le village, c'est dans quelque chose qui, de près ou de loin, ressemble à quelque chose d'un peu urbanisé, pour les mères, il est en parfaite sécurité. Et donc, il n'y a pas lieu de s'en occuper plus que ça. S'il se trimballe avec ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, ça va très très bien. Les enfants sont collectivement sous la garde des adultes. Et c'est quand l'enfant est dans la nature, c'est ce que Toby Nathan appelait la dialectique de la brousse et du village, c'est là qu'ils sont en danger. Et c'est donc là qu'il ne faut surtout pas les perdre de vue. Et je me souviens très bien que ça avait été assez éclairant pour moi sur tout ce discours qui consiste à dire que parfois les immigrés ne s'occupent pas très bien de leurs enfants parce qu'on voit bien toutes ces grandes fratries qui déboulent chez nous sans qu'on voit jamais les parents. Ça m'amène à dire que la question de l'appropriation, de la formation, de l'accompagnement des personnels sur la connaissance tout simplement des cultures des gens que nous sommes amenés à accueillir est une chose qu'on néglige beaucoup trop parce que parfois on forme les gens à l'accueil, mais il ne suffit pas de les former à l'accueil, il faut, je pense, avoir un certain nombre d'éléments de cet ordre pour éviter tout simplement de faire des gaffes. La dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est que tout à l'heure j'ai entendu cette pub « Ici on ne vous demande pas vos papiers ». Moi, je trouve qu'on en demande quand même pas mal des papiers dans nos bibliothèques, parce que certes, on ne se demande pas les papiers pour vérifier l'identité ou la nationalité des gens. En revanche, on demande des papiers pour savoir où on habite, etc., etc. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément qui est très difficile quand on veut toucher des populations pour lesquelles le mot « papier » est déjà l'incarnation même de la difficulté. Beaucoup de gens sont sans papier, vivent dans la clandestinité, et sans compter qu'ils sont souvent contrôlés par la police. Donc tout ça fait que, moi je trouve que justement cette question des papiers, il faut qu'on se la repose aussi dans nos pratiques professionnelles, si on veut, d'une manière ou d'une autre, accueillir correctement et pas seulement dans le faux semblant. Voilà, donc, très rapidement, les services. Comme tout le monde, mettre en place tout ce qui peut aider à l'apprentissage du français, que ce soit enrichir de façon très considérable les fonds de méthode de langue, et si possible, les modalités de prêt, les élargir un peu à au-delà de 3 semaines, parce que personne n'est capable d'apprendre une langue en 3 semaines, enfin, sauf génie qu'on peut nous signaler. Nous avons énormément développé nos méthodes de langue, que ce soit sous forme matériel, mais aussi beaucoup notre plateforme de ressources numériques avec deux produits, Rosetta Stone et puis Orthodidacte, avec évidemment toutes les langues possibles et imaginables, mais surtout un accent fort sur le français, et avec aussi la mise en place d'ateliers de médiation pour que les premiers pas sur la méthode soient accompagnés et qu'on ne laisse pas, parce que bien entendu cette question de la médiation elle est fondamentale. Et ça s'appuie sur tout ce que je disais tout à l'heure à propos du partenariat. Voilà, apprendre les langues, apprendre le français et mettre en place tout ce qui peut accompagner l'apprentissage du français. Donc, il y a été fait référence tout à l'heure, atelier de papotage, discussion en français, tout ce qui peut, de près ou de loin, s'y rapporter. Lire en langue étrangère, effectivement, il y a des populations qui lisent dans leur langue. Il a été cité le fonds tamoul de la bibliothèque de la Courneuve tout à l'heure. Donc c'est aussi ce qu'on a fait comme choix, de développer des fonds en langues étrangères dans des langues parlées par les communautés présentes sur le territoire, avec ce qu'il y a... avec des fonds qui sont relativement développés et qui sont rassemblés à un endroit, avec les caractéristiques que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire aussi des livres pratiques, des best-sellers d'Anne Brown en turc ou en tamoul, etc. etc. Et puis aussi la publication de ce petit livret, qui est à la fois le catalogue des documents, mais qui surtout présente quelques articles de fond sur la communauté en question, l'immigration turque, l'immigration tamoule, et des portraits, des interviews d'habitants du territoire qui sont de ces nationalités. À chaque fois aussi, une conférence destinée à l'ensemble du personnel des médiathèques qui fait un point justement sur ces questions. C'est le processus de connaissance dont je parlais tout à l'heure. S'emparer de tout ce qui est dans l'actualité pour mettre en valeur et partager chacun de son point de vue justement l'actualité et la possibilité de rencontres. Donc là, On a, de ce point de vue-là, de multiples exemples. L'indépendance de l'Algérie, l'année dernière, nous a permis de faire quelques belles rencontres et expositions. L'année de la Turquie, de lancer notre guide en langue turque, en présence d'Attila Duran, qui est un photographe turc et dont nous avons exposé de très grands formats, comme vous pouvez voir, dans une médiathèque de Stein. Et puis aussi programmer beaucoup de... En termes de rencontres, être plutôt sur des rencontres qui ont trait à la société, plutôt, je dois dire que les rencontres littéraires ne sont pas forcément notre fort. Et c'est vrai que nous avons pris un engagement très fort autour du terme de l'égalité femmes-hommes, et que cette programmation égalité femmes-hommes, qui nous a permis de développer toutes sortes de choses, que ce soit des expositions, des rencontres, des lectures, des débats, des projections de films, des ateliers de création, ça nous a permis, ces rencontres égalité femmes-hommes, de mobiliser un public y compris évidemment dans la population étrangère, qui est tout aussi concernée que nous sur cette thématique. Donc, une rencontre avec Rokaya Diallo. Et puis, quelques t-shirts qui ont été faits, donc atelier de slogan en quelque sorte, avec des jeunes à Épinay, qui permettaient ensuite d'imprimer, on a ensuite imprimé les slogans sur les t-shirts. On a évidemment un grand festival de contes parce que la question de l'oralité nous semble devoir être mise en valeur. Il est important de valoriser cette grande dimension culturelle qu'est l'oralité et de ne pas seulement être sur l'écrit. Je passe rapidement. Un aspect sur lequel je voudrais insister, c'est que beaucoup de populations immigrées ont de l'ambition pour leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants réussissent et réussissent mieux qu'eux. La question de l'échec scolaire est très très douloureusement ressenti, et donc on a mis en place et de plus en plus on veut renforcer les accueils de soutien scolaire, c'est-à-dire pas seulement prêter l'État mais accueillir, et ça revient à ce que je disais sur le partenariat, accueillir des structures qui font du soutien scolaire et qui le font chez nous. De la même manière que nous accueillons des écrivains publics et que nous nous occupons des gens pendant qu'ils attendent ou de leurs enfants, de manière à, là aussi, créer un lien autour des besoins exprimés en premier chef. Avec l'idée, bien sûr, que l'objectif, c'est de toucher les familles et que, en passant par les enfants, on arrive parfois à toucher les familles, même si parce qu'elles sont très motivées par la réussite de leurs enfants. En conclusion, je reprendrai à mon compte ce qu'a déclaré un collègue dans Livre Hebdo très récemment. Nous sommes des passeurs et sur un territoire comme le nôtre, la question de l'intégration ou de l'inclusion, elle est première. Il faut que tous ces gens qui sont chez nous et qui vont devenir français soient des Français comme les autres, avec leur propre héritage, et que cet héritage, nous l'ayons en partage. Notre rôle, nous semble-t-il, dans les médiathèques de pleine commune, qui sont gratuites et solidaires, c'est d'être les passeurs entre les différents endroits d'où viennent les gens, et de manière à ce que chaque culture puisse s'enrichir.
Merci beaucoup à Dominique Deschamps. Donc on a 10 minutes environ pour un échange entre les intervenants et vous-même dans la salle. Un certain nombre de points ont été vus, des expériences, des services. J'ai cru comprendre que les préjugés pouvaient des fois être, comment dire, je perds mes mots, mais que l'ignorance pouvait amener à des préjugés et que les bibliothèques pouvaient tout à fait aider à donner le savoir qui combat cette ignorance. Mais je vois qu'une question.
Bonjour, je suis animateur numérique dans une bibliothèque là sur Lyon. Nous, ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'on a des publics d'Afrique et d'Europe de l'Est qui sont présents dès l'ouverture de la bibliothèque et qui partent avec nous quand on ferme la bibliothèque. Et moi, la question que je me posais, quand on observe tout ça, c'est quelles sont les compétences que les bibliothécaires ont, ou les différents acteurs qui travaillent dans la bibliothèque ont pour accompagner ces publics, entre ce qu'on peut offrir nous, le partenariat qu'on peut mettre en place, parce que moi, j'ai souvent l'impression qu'on se pose des questions, mais entre les questions qu'on se pose et l'action, ben, finalement, il se passe beaucoup de temps et ces personnes-là restent 4-5 heures, ont tendance à utiliser notamment les postes, les ordinateurs très longtemps, ça crée des conflits, ça crée des tensions. Et finalement, je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui des bibliothécaires sur un accompagnement? Quand est-ce qu'on peut passer le relais et qu'on ne soit pas toujours, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi? Parce que concrètement, ils sont chez nous. Et à un moment donné, voilà, je veux dire, les voir 4 heures errer, que ce soit les adolescents ou les adultes, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est questionnant, quoi.
Qui veut répondre? Effectivement, ça avait été abordé à travers l'accueil.
Mais je pense que vous touchez du doigt quelque chose d'important. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut absolument pas y aller tout seul. Tout seul, on n'y arrivera pas. Ça, c'est absolument certain. Et croire qu'on peut y arriver tout seul, c'est se mettre d'emblée dans une situation d'échec. Donc effectivement, une de nos difficultés, je crois, c'est d'étendre, d'élargir très considérablement le nombre de gens qui travaillent avec nous. Parce que c'est absolument certain que si on est seul à accueillir et à essayer de résoudre ces problèmes, on va s'épuiser, et on s'épuise. J'entends tout à fait ce que vous dites. C'est pour ça que j'ai voulu insister tout à l'heure sur le fait que travailler avec les autres, ça n'est pas pour établir des complémentarités pour ce qui nous concerne, mais c'est réellement une stratégie pour faire rentrer dans nos lieux toutes sortes de structures qui travaillent avec nous et qui, justement, sont des structures qui peuvent prendre le relais, y compris dans nos lieux, pour faire d'autres choses. Et qui aussi nous permettent à nous de sortir de nos lieux pour faire dans leurs lieux d'autres choses. Nous, on fait ça avec les maisons de l'emploi, on fait ça avec des groupes RSA, on fait ça, etc., etc. On fait ça avec des associations, voilà. Mais absolument, et ça, c'est absolument fondamental, parce que dans toutes ces situations un peu limite, où on se dit, mais la bibliothèque a un rôle à jouer dans la citoyenneté. Oui, d'accord, mais quand on est tout seul, on va s'épuiser. Et ça, c'est absolument fondamental de se dire qu'il faut absolument sortir de cette illusion qu'on est tout puissant. C'est complètement... finalement, on peut très peu tout seul. Il est absolument fondamental, au contraire, qu'on travaille avec des gens qui ne sont pas du tout de la sphère culturelle. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, parce que, bien sûr, des partenariats avec le théâtre, le conservatoire, ça, on sait faire. Mais il est fondamental de faire des partenariats avec des structures qui ne sont pas de la sphère culturelle dans ce type d'objectif. J'entends bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec le théâtre.
Oui, bonjour. Philippe Collomb de la BPI. Vous avez évoqué la nécessité, que je partage avec vous, de recruter du personnel, et pas que des grands frères et des vigiles et du personnel d'entretien, qui soit aussi en lien et qui ait à peu près la même sociologie que les publics que vous recevez. Mais on se heurte paradoxalement... Enfin, j'aimerais savoir si vous avez des retours d'expérience et comment vous faites, puisqu'on se heurte paradoxalement avec des dispositions légales qui sont des dispositions anti-discrimination et qui empêchent de mettre ce genre de critères comme des critères de recrutement ou qui peuvent poser des difficultés. Alors comment vous gérez ça?
Ah bah oui, moi j'ai pas dit que je militais pour la discrimination positive ni les quotas. Non, c'est pas du tout ça. Enfin, en tous les cas, si ça a pu le laisser penser, j'éclaircis. Honnêtement, moi je n'ai aucune difficulté. J'ai des tonnes de CV de gens qui habitent le territoire et qui voudraient bien travailler chez nous. Et il me suffit de les recruter et de les former et d'accepter de faire ça. Mais après, honnêtement, et puis on a dans les structures partenaires des gens qui qui ont travaillé avec nous en tant que partenaire, et qui à un moment se disent, tiens, mais en fait, peut-être moi aussi je pourrais devenir bibliothécaire. Et on a des exemples dans l'équipe, vraiment, on en a des exemples dans l'équipe pour le coup. Après, il faut le vouloir, c'est-à-dire qu'il faut se dire, je regarde tous les CV, j'essaye de dénicher le potentiel, et puis voilà, quoi. Mais après, honnêtement, c'est pas mon premier critère, hein. Je ne fais pas de discrimination ni positive. C'est pas notre premier critère, mais en revanche, on est attentif, de la même manière qu'on est attentif à recruter des hommes. Ah bah oui. De toute façon, nous, vous savez, les titulaires, ils postulent pas chez nous. Donc, on est tranquille. Les titulaires, ils veulent pas travailler en Seine-Saint-Denis. Et puis après la présentation que j'ai fait là, je doute d'en avoir recruté beaucoup.
Je voulais juste rajouter quelque chose sur cette question. C'est une question qu'on s'était posée avec Thomas, justement, cette question de recruter, diversité, etc., etc. Et effectivement, la loi dit, vous ne pouvez pas dire, par exemple, cherche chinois pour travailler à la bibliothèque. Non, on ne peut pas faire ça. En revanche, oui, ou connaissance de la langue chinoise, vous pouvez faire ça, connaissance de la culture chinoise. Et puis surtout, ce que font les établissements, c'est dire une priorité au recrutement local. C'est-à-dire sur le territoire. Et si vous avez un territoire où vous avez, je ne sais pas, 50% de Chinois, il y a des chances qu'il y ait des gens qui parlent le chinois ou qui connaissent la culture chinoise qui postulent. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez si vous souhaitez recruter un public, comme tu as dit, Philippe, qui est sociologiquement plus proche de votre public qui est local, c'est de dire que vous faites un recrutement local. Voilà.
Je pourrais ajouter que dans l'exemple que j'avais cité de la bibliothèque universitaire qui avait un fonds de documents en langue chinoise, donc ça a été pris en charge par une stagiaire, donc bibliothécaire, qui a collaboré et voilà, ça a permis de mettre les œuvres à la lecture dans une bibliothèque universitaire de lettres en lettres. Voilà. Ça.
Il me semble qu'on a eu beaucoup d'éléments sur la population, la catégorisation de la population de pleine commune, mais il ne me semble pas avoir vu une catégorisation du public des emprunteurs, et notamment pour les adultes, c'est-à-dire que vous avez bien expliqué un niveau de diplôme faible, etc., dans la population, mais est-ce que vous pourriez nous donner des éléments sur les plus de 15 ans par rapport au CSP adulte du public emprunteur ? N'y a-t-il pas du tout de mixité sociale au niveau de cette population adulte en ce qui concerne pleine commune? Enfin, si c'est possible d'avoir des éléments là-dessus, ce serait intéressant. Et puis il y a une autre chose sur laquelle je souhaiterais réagir, en m'en excusant peut-être du début, mais il me semble qu'il y a des confusions entre différents termes. On parle de sociologie, on a parlé de race, me semble-t-il. Puisque il me semble qu'à un moment donné, ce qui a été cité, c'est la couleur de la peau. Un public sri-lankais qui vient, il va voir que je suis blanche. Donc, d'un côté, on dit c'est la sociologie, d'un côté, c'est la nationalité chinoise, et de l'autre côté, on parle de la couleur de la peau. Or, de ce que j'ai pu voir en ce qui concerne la population de Seine-Saint-Denis, telle que vous l'avez montré, et des communautés qui sont résidentes. On a beaucoup de populations maghrébines, africaines, portugaises, enfin, quand on voit les éléments les plus forts. Alors, par exemple, j'ai posé une question, mais exprès, pour essayer qu'il y ait moins de confusion. Est-ce qu'on considère, par exemple, que les maghrébins ne sont pas de race blanche? Je pose cette question-là un petit peu exprès, parce qu'il me semble qu'il y a eu confusion. Autant on nous a donné en début, une introduction, qu'est-ce qu'on considère comme immigré, etc. De temps en temps, on dit, voilà, il y en a 70% dont un parent n'est pas français, ça veut dire que l'autre est français. On nous donne des éléments du type 9 enfants sur 10 sont nés en France, sont-ils ou non français? Donc il me semble qu'on confond un petit peu dans le discours des notions de nationalité, des notions d'immigration seconde ou troisième génération, et aussi des questions de couleur de peau. Et je pense que ce sont des choses, à mon avis, différentes. Et quant au recrutement sociologique, est-ce qu'on souhaiterait que dans les bibliothécaires, il y ait dans les bibliothécaires et dans peut-être l'ensemble de la population, c'est-à-dire qu'au niveau des cadres, est-ce qu'on souhaiterait que l'ascenseur social fonctionne mieux et qu'il y ait plus de gens issus de tous les milieux sociaux? Je pense que ce serait bien. Mais je pense qu'à plusieurs reprises, dans les interventions qui ont eu lieu, on a aussi parlé de problèmes de pauvreté, de problèmes d'économie. Et je pense que tout ça n'est pas très, comment dirais-je, je reste un peu sur ma faim, c'est pas assez...
Justement, on va essayer de répondre un peu à votre intervention, merci.
Juste brièvement, c'est normal que vous restiez sur votre faim, c'est normal qu'on soit assez flou sur les termes, comme j'ai pu essayer de le dire au début, ce sont des termes qui sont eux-mêmes assez flous sur lesquels, qu'on parle d'immigration, d'étrangers, que tout le monde savait la distinction entre immigrés et étrangers dans cette salle ? Non, ça, je veux dire, c'est des choses où on a beau manipuler les termes régulièrement, en vérité, on n'y connaît pas grand-chose. Donc oui, c'est normal, il y a des flous, et c'est justement aussi pour ça qu'on essaie de faire ce genre de rencontres, pour échanger. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de pointer quoi que ce soit sur à un tel moment on a parlé de couleur, à un tel moment on a parlé de sociologie, à un tel moment, parce que justement... Voilà. Ah, justement, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une espèce de richesse de ce que peut être l'immigration qui parfois va se présenter sous certaines formes, ou du moins on va la présenter sous certaines formes, parfois sous d'autres formes, etc. Et puis, deuxième point, on est obligé d'aller assez vite là parce qu'en vérité, on n'a qu'une heure et demie. Mais moi, je serais ravie de parler de ça pendant des heures et des heures et des heures. Mais comme je l'ai dit, hein, là, on pouvait vraiment faire qu'on a une heure et demie pour échanger. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut répondre?
Moi, je veux bien que je ne sois pas claire et très confuse, mais je pense que tout le monde a bien compris ce que je voulais dire. Et puis, en plus, oui, je suis d'accord, hein, et c'est bien pour ça que j'ai dit que pour moi, c'était important de recruter des gens qui deviennent cadres, et c'est notre cas, et pour que l'ascenseur social fonctionne pour tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de question. Moi, voilà. C'est Jean-Louis Sagot-Duvourou qui parlait à propos de son fils qu'il a eu... d'une épouse malienne, qui disait toujours qu'on disait que son fils était noir et que pourquoi il était à moitié noir et à moitié blanc. Il aurait pu dire qu'il était blanc. Mais voilà, donc c'est lui, voilà, c'est Jean-Louis Sagot-Duvourou, il est philosophe, je vous renvoie à son ouvrage. Et c'était très amusant et c'était très intéressant son livre. Voilà, bien sûr, je veux bien, hein, moi vous savez, je ne suis pas sociologue, hein, vraiment, et je suis une humble bibliothécaire et je faisais juste un témoignage de ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Je crois que il faut pas se cacher derrière des définitions. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que la question des populations étrangères, à partir du moment où elles sont très très nombreuses, doivent être prises en compte au niveau que ça mérite. Et qu'il ne faut pas seulement les regarder de l'extérieur, mais qu'il faut nous aussi se mettre dans le processus. Mes mots ont peut-être été maladroits, mais je le redis, je pense qu'on a compris ce que je voulais dire.
Merci. Donc on va prendre une dernière question. Et c'est la dernière.
Bonjour. Moi, je pense que pour ne pas noyer le débat dans des questions qui risquent de nous dépasser, comme ces notions d'immigration qui sont même assez compliquées au niveau étatique, il faut se ramener aussi au niveau du citoyen, de la citoyenneté en quelque sorte, hein, pas citoyenneté administrative, mais en citoyenneté comme quelqu'un qui vit dans un territoire, qui paye des impôts et qui a besoin de services et que la bibliothèque doit rendre ce service-là. Je pense que si on se met à ce niveau-là, la question risque d'être, en tout cas, sera beaucoup moins difficile que ce débat sociologique dans lequel on risque de rentrer dans des considérations qui sont assez compliquées, assez juridiques. Et l'autre question aussi, c'est le problème du repérage dans nos bibliothèques. Parce qu'en fait, on reçoit beaucoup de monde, très diversifié, beaucoup de citoyens, pour employer le même mot, mais pas d'immigrés ou d'étrangers ou autres. Et comment faire pour repérer celui qui a des difficultés, soit par rapport à la langue, soit par rapport à la culture. Et je pense que ça, c'est important à le faire. Et la deuxième question aussi, c'est au niveau des référentiels de métiers, comment faire en sorte pour qu'au moins dans nos bibliothèques, on puisse avoir des gens qui vraiment réfléchissent sur ces questions-là et qui vont vers l'extérieur dans le territoire. Parce qu'il y a un repérage qui est facile, un premier repérage, qui est le repérage du territoire. Il y a des territoires qui sont des territoires d'immigration. Ben forcément, ça va impacter les personnes qui viennent à la bibliothèque. J'apporterai aussi une deuxième notion, qui est la notion d'expert. Parce qu'en fait, on dit qu'on va donner des services à quelqu'un, mais comment faire pour que la personne puisse intégrer ce service, mais aussi participer à ce service? J'utiliserai la notion d'expert qu'on utilise dans la politique documentaire. ces immigrés qui sont en général français langue étrangère, qu'on appelle les FLE, qui ont acquis une culture dans leur société, et qui ont acquis des études universitaires, on doit les utiliser parce qu'on offre dans les services, on offre des collections, qui sont des collections bilingues. On peut les utiliser aussi par rapport à ça. Mon témoignage vient du fait, parce que ça fait depuis 12 ans que je travaille à la médiathèque de Vénissieux, et on a développé beaucoup de services. Mais pour que ces services puissent être vraiment prenables et compréhensibles par la population, je pense que, comme vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Il faut qu'on aille vers des partenaires. Il faut qu'on aille vers le territoire. Il faut qu'on aille vers des gens qui ont des compétences que nous, on n'a pas. Et on croise ces compétences-là. Ce n'est pas une question de budget, ce n'est pas une question, c'est une question de croiser des financements, du droit public, voir les associations qui travaillent là-dessus, comprendre le processus pour pouvoir mettre des choses en place. Nous, à la médiathèque de Vénissieux, pendant 13 ans, on a mis des actions qui ont commencé en 2001 jusqu'à aujourd'hui. Ces actions-là continuent parce qu'il y a des personnes qui sont repérables sur le territoire, qui vont vers les structures qui travaillent pour voir comment faire pour mélanger nos compétences. On a fait beaucoup de choses avec les immigrés, on a fait beaucoup de choses avec l'alphabétisation, en utilisant même le numérique par rapport à ça. Donc je pense que ce qui est important, c'est la notion de citoyen et de citoyen qui a besoin d'un service et que la bibliothèque est là pour rendre ce service. Parce que sinon, on sera dans un terrain assez glissant. Merci.
Ben, ça va servir de conclusion. Il n'y aura pas de réponse. Donc on remercie les intervenants. L'Association des bibliothécaires de France de nous avoir permis d'organiser cet atelier et vous-même d'être venu présent.